Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le premier avion que j'ai raté, c'était le mien. Je l'ai dit à la télévision, on ne veut plus me parler de cela. Après, ça fait des petits, hein. Oui. Mais le premier, ça a été celui-là.
Effectivement, le premier avion piraté était le sien en 1956. Et le rapt, le détournement, était organisé par les services de renseignement et d'action français. Une opération montée pour neutraliser ceux qui apparaissaient désormais aux yeux de tous comme les principaux militants nationalistes. Les indépendantistes. L'avion affrété par le roi Mohamed V du Maroc pour une importante réunion à Tunis entre les nationalistes du Maghreb a été intercepté. Et Ben Bella est désormais entre leurs mains. Malgré l'incident que cela entraîne, malgré la colère du président du conseil qui n'a pas été informé de l'opération, Ahmed Ben Bella et ses camarades sont à présent les prisonniers de l'État français. Le jeune nationaliste est transféré à la métropole. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella.
Je puis dire que le commencement, ça a été... Alors que j'étais très jeune, je sortais d'un village, Marnia, pour aller faire mes études secondaires. À Tlemcen, c'est une ville qui, à un moment donné, a été la capitale d'Algérie. C'est une très belle ville, où il y avait évidemment des lycées. Et je venais d'avoir mon certificat d'études. C'est là que tout s'est passé, finalement. Lorsqu'un jour, j'avais 15 ans, j'avais un professeur, un très très bon professeur. Mais vous voyez, on revient à quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Il était intégriste, il était adventiste, vous savez, une secte qu'on appelle les adventistes. Et de temps en temps, il faisait des digressions, et malheureusement, il lui arrivait de dire des choses. Un jour... S'énervant, me dit, Mohamed est un imposteur. Ça m'avait blessé. Sans que je puisse, disons, répondre, sans que je puisse. Et alors que je faisais des études, de très bonnes études, que je me suis arrêté, voilà. Ça a été un arrêt. J'ai commencé à voir autour de moi et donc vraiment à voir ce que c'est que le colonialisme chez nous, vis-à-vis des élèves qui étaient avec nous, les élèves fils de colons, etc. Disons, une fenêtre s'était ouverte sur quelque chose.
Cette fenêtre semble s'être fermée ce 22 octobre 1956, puisque le nationaliste algérien qu'il est devenu a été arrêté par les autorités françaises. Il se balade désormais de prison en prison, pendant que l'armée qui a pris la main négocie avec les autres leaders nationalistes, ceux de l'intérieur, ceux qui sont en Algérie. Ils ne souhaitent pas le faire avec Ben Bella.
Que nous négocions depuis 8 mois avec la France, que dans ma poche, l'accord entre nous et la France existait lorsque les colonels sont venus me parler après notre arrestation et que le général, je ne me rappelle plus quel général est venu, le chef d'état-major français, me proposer de recommencer les négociations, mais à ce moment avec l'armée française. Parce que l'armée française n'accepterait jamais que l'affaire de l'Indochine revienne. L'Algérie est beaucoup plus importante que l'Indochine. L'Algérie n'est pas à 10 000 kilomètres. L'Algérie n'a pas 10 000 Français seulement, mais 2 500 000 Français. Et que c'était non seulement un territoire d'outre-mer, mais c'était la France. La phrase était de Dunkerque à Tamanrasset, rappelez-vous, qui un peu résumé cela. Et que donc l'armée n'accepterait jamais, etc. Et je refuse, je lui dis, mais moi, pour moi, la France a un État. Nous avons négocié avec votre exécutif, c'est M. Guy Mollet qui a le premier eu l'idée d'une négociation. Ça fait 8 mois que nous négocions. 3 mois au Caire, 2 mois et quelques chez Tito, et à Rome, ce qui restait. Et j'ai l'accord dans ma poche. Et ils me disent, non, cet accord jamais ne s'appliquera. C'est une trahison pour nous. Et donc, nous vous proposons de renégocier avec vous. J'ai refusé.
Ils refusent, et c'est pourquoi Ben Bella va être écarté du jeu. Il ne sera pas présent pendant les douloureux et tragiques événements que va connaître son pays. La guerre meurtrière qui l'ensanglante.
En Algérie, aux renforts venus de France, s'ajoutent ceux qui arrivent de l'Afrique occidentale. Les premiers éléments du pont aérien organisé entre Dakar et Alger ont atterri à la Maison Blanche et débarqué les éléments tous volontaires d'unités sénégalaises qui vont prendre place dans le dispositif de pacification. Dès maintenant, les forces nouvellement arrivées vont être acheminées vers les zones critiques. On peut penser que leur présence, de plus en plus nombreuse, ajoutée à la ferme action du gouvernement et à la reprise de conscience de certaines fractions de la population, permettront de revoir bientôt une Algérie française unie.
C'est de sa cellule en France que Ben Bella va vivre l'arrivée aux affaires du général de Gaulle, qui, à la faveur d'une nouvelle crise ministérielle, aggravée par la situation en Algérie, va être appelé à prendre en main les destinées du pays en 1958.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Le général de Gaulle aux affaires doit tout de suite faire face à la crise algérienne qui enfle. Quelques semaines seulement après sa prise de fonction, il effectue un premier voyage à Alger.
Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave, mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. En Algérie, il y a une population, tant française de souche que musulmane, qui depuis des années est dans la guerre, les meurtres, les attentats, et cette population constate, depuis que cela dure, que le système actuel établi à Paris ne peut pas résoudre ses problèmes. Bien mieux, ils ont vu ce système récemment s'orienter vers les offices de l'étranger. Ils ont entendu l'homme, qui est d'ailleurs mon ami, et qui se trouvait à ce moment-là ministre de l'Algérie sur place, déclarer publiquement « Nous allons à un Dien Bien Phu diplomatique ». Comment voulez-vous qu'à la longue, cette population dans la fièvre où elle est, ne se soulève pas?
En prenant acte de ce qui s'est passé le 13 mai, il laisse croire aux partisans de l'Algérie française qu'il adhère à leur programme d'intégration de l'Algérie à la France. Mais en même temps, il considère les musulmans comme des Français à part entière, je cite. Et il annonce l'instauration immédiate d'un seul et même collège électoral, ce que les partisans de l'Algérie française avaient jusqu'alors toujours refusé. Cela signifie que le vote de chacun des 9 millions de musulmans aura désormais le même poids que le vote de chacun des Français d'Algérie qui ne sont qu'un million. Que comprendre de ce discours ambigu? Sur le coup, le discours donne un fort sentiment de soutien à tous ces auditeurs musulmans européens et juifs qui ont fraternisé. Il provoque une explosion de joie. Clairement, les pieds noirs le prennent pour eux et pensent avoir le soutien du nouveau président du Conseil. Plus tard, certains historiens soulignent que la phrase était si ambiguë que c'était clairement volontaire. Il s'agit d'une phrase qui typiquement vise à rassurer tout le monde, sans prendre position.
Les affaires de la France sont difficiles, mais hier, elles semblaient insolubles. Aujourd'hui, non. N'est-ce pas déjà un progrès? Pour l'immédiat, il en est trois qui dominent notre situation. L'Algérie, l'équilibre financier et économique, la réforme de l'État. Dans ces domaines, nous venons de loin. Mais maintenant, je crois qu'avant la fin de cette année, nous serons engagés dans la bonne voie. L'Algérie, les conditions de son avenir, la France veut les fixer avec les Algériens eux-mêmes, mais qu'ils fassent entendre leur voix. Celle des fusils est stérile. Or, les Algériens vont avoir, lors du prochain référendum, puis lors des futures élections, la possibilité de s'exprimer librement, tous ensemble, en un seul collège où le suffrage de chacun comptera autant que le suffrage des autres. Pour que les 10 millions d'Algériens aient tous désormais les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'année 58 pour l'Algérie, ouvre la route de l'espoir.
Le général de Gaulle, malgré les promesses et son engagement sur le terrain, ne parvient toujours pas à ramener le calme et la fraternité promises. Aucun progrès n'a été accompli dans l'ordre d'une solution politique. La majorité des Européens d'Algérie réclamant l'intégration, alors que les chefs de l'insurrection revendiquent l'indépendance.
Jeudi 8 janvier, la France change de république et de président. Charles de Gaulle succède à René Coty.
Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Il me faut le concours de ceux qui servent la République. Ce concours, cet appui, ce soutien, ils me furent naguère accordés dans l'angoisse du péril national. Je les demande à présent, où à l'horizon paraît la lumière de nos grandes espérances. Vive la communauté, vive la République, vive la France.
Michel Debré, convoqué par le général de Gaulle, annonce à l'Élysée la formation et l'orientation de son ministère.
Par le gouvernement présidé par le général de Gaulle depuis 7 mois, est considérable. Le nouveau gouvernement ne pourra mieux faire que de la poursuivre.
Le général de Gaulle est conforté. Il tient fermement la barre du navire France. Et c'est au cours de cette année qu'il va prendre une nouvelle option. Il prononce un discours radio-télévisé par lequel il énonce le principe fondamental de sa politique à l'égard de l'Algérie, celui de l'autodétermination.
Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceci ou de cela, qu'obnubilent en sens opposé leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin.
Les Algériens choisiront librement leur destin une fois la paix rétablie. 3 options sont concevables. La sécession, où certains croient trouver l'indépendance. La francisation complète. Et le gouvernement des Algériens, par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle. Avec un régime intérieur fédéral pour assurer l'équilibre entre les groupes ethniques. Il est clairement sous-entendu, évidemment, que de Gaulle suggère la dernière option. Cette année 1959 et le début de la suivante, le général de Gaulle sonde les possibles. Après avoir proposé au Front de Libération Nationale, FLN, une paix des braves, vite rejetée, le président de la République demande à l'armée de renforcer sa présence en contenant la rébellion et en s'assurant le soutien d'une partie de la population musulmane. C'est la période du plan Chal, mis au point par le nouveau responsable militaire en Algérie. À la fin de l'année, le chef de l'État expose dans un discours resté célèbre les choix de l'autodétermination. Le général se rend régulièrement sur le terrain pour constater l'évolution de la situation et discuter avec les responsables locaux. C'est ce que la presse appellera la tournée des popotes. Le référendum proposé par le général de Gaulle visant à statuer sur l'autodétermination des populations algériennes est organisé simultanément en France et en Algérie.
En France, le corps électoral a fait son devoir, moins largement sans doute qu'au dernier référendum, mais plus massivement que ne le prévoyaient les augures. Et derrière les visages des leaders des oui et des non, Paul Reynaud, Jacques Duclos, Jacques Soustelle, Guy Mollet, les Français ont apporté leur bulletin. Tout comme eux, à Colombey-les-Deux-Églises, le président de la République est allé lui aussi glisser son bulletin dans l'urne avec les 185 autres électeurs de son village. Détail, à Colombey, il y a un nom. Toute la nuit, le ministère de l'Intérieur a publié les résultats de la journée dont la leçon devait être tirée pour les journalistes par le ministre de l'Information, M. Ternoy. En métropole, plus de 75% des votants, en Algérie, 68% des votants avaient dit oui. Le oui franc et massif demandé par le général de Gaulle pour construire l'avenir.
Dans la métropole, 75,26% des Français se déclarent en faveur de la création d'une république algérienne. Dans le département français, 70% disent oui à l'autodétermination. Mais ce référendum ne met pas pour autant fin aux violences qui secouent l'Algérie. Pendant tout ce temps et ces bouleversements dans un pays où l'on parle enfin d'autodétermination, même si son objectif clairement énoncé est l'indépendance, Ahmed Ben Bella est toujours enfermé dans sa prison à Turquan. Son statut de prisonnier lui confère certes une certaine notoriété, une certaine popularité dans le milieu nationaliste, mais on négocie plutôt avec les autres. Dans le village où il est gardé par plus de 150 soldats, on ne se réjouit pas toujours de sa présence. La presse ironise.
Bonjour monsieur. La radiodiffusion française, est-ce qu'on peut voir le commandant s'il vous plaît?
Oh non, c'est impossible, il faudrait laisser passer.
Ah, on peut pas aller le voir non, justement non, pour en obtenir non, un, moi non, je pensais. Non.
Alors là, je ne
faudra
pas
laisser
dire.
Passer de la préfecture là.
Ça, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais rien de plus.
Ah bon? Vous savez pas non plus si Ben Bella s'en va?
Ah, alors là.
Ça serait la question la plus indiscrète qu'on puisse vous poser.
Là, nous ne savons rien non plus, quoi.
Oui.
Toujours.
Enfin, vous savez que vous êtes là pour l'hiver, vous.
Ah, pour l'hiver, non, j'espère qu'on sera remplacé, quoi. Ça serait trop long.
Oui, non, parce qu'on dit qu'il fait pas très chaud à Turquan.
Ah non, c'est pas le paradis, hein.
Partira, partira pas, telle est la question que l'on se pose, plus que partout ailleurs à Turquan, dont les 475 habitants ont vu un matin de mai ensoleillé se poser au beau milieu de leur village la grosse et bruissante libellule d'acier d'où descendit un invité inattendu, Ben Bella. Partira ou partira pas? Telle est la question que nous avons posée, nous aussi, à Turquan, où depuis 6 mois bientôt, on s'est habitué à la présence invisible de Ben Bella et à celle plus familière des CRS qu'il surveille, dans ce château qui n'en est d'ailleurs pas un, et d'où l'on a chassé des magistrats en vacances pour faire place aux prisonniers. Si les CRS se plaignent de leur sort, ils sont effectivement parqués dans des conditions précaires. Ben Bella lui-même n'est guère satisfait du sien. Paradoxalement, il se trouve infiniment moins libre à Turquan, où le moindre de ses déplacements s'effectue sous le contrôle de 20 personnes, qu'à l'île d'Aix, où il évoluait relativement à l'aise. En outre, le fameux château offre un confort très relatif. Alors, partira, partira pas. Écoutez ce qu'on en pense au Café Fleury, observatoire numéro 1 des allées et venues du prisonnier.
On pense pas qu'il doit partir.
Comment on pense pas? Mais on le disait la semaine dernière, non?
Bah, tout le monde le dit, oui, mais maintenant que les journalistes sont partis... On...
Les journalistes sont partis par tous, puisque nous sommes là. La dernière fois que vous l'avez aperçu, c'était quand?
Avant-hier.
Avant-hier?
Parce qu'ils l'ont pris en photo, les journalistes.
Ah oui. Mais est-ce qu'il n'a pas été sur le point de partir, vraiment?
Paraît-il que si.
Est-ce qu'on n'a pas parlé aussi d'une tentative d'évasion?
Si, on en a parlé, mais pour être sûr que c'est certain, on ne sait pas trop.
Mm-hmm. Ça vous ferait plutôt plaisir que Ben Bella reste, non?
Non.
Non?
J'aimerais autant qu'il s'en aille.
Et vos clients, alors?
Alors, remarquez, ils viennent pas au café, les CRS.
Jamais?
Non.
Et Ben Bella non plus. Il est plus préoccupé par ce qui se passe dans son pays, mais également par les négociations qui se déroulent sans lui. Il est visiblement coupé de tout et éloigné de toutes les batailles qui se livrent à l'extérieur avec son cortège de morts. Ben Bella.
Cela peut être ma servie parce que je suis resté vivant. Ça veut dire que j'étais en prison, donc ça m'a fait du bien. Peut-être, pourquoi pas. Hein. On a tellement, c'est vrai, il y a tellement de frères qui ont été descendus. Peut-être, c'est vrai que la confrontation devenait absolument indispensable entre moi et Ben, n'est-ce pas? Si j'étais resté dehors, n'est-ce pas?
Là, c'est certain, échappé à toutes les tueries, tous les affrontements pendant ces années de détention. Mais comment ce prisonnier, ce leader de la première heure, va-t-il retourner dans le jeu politique en ce début de la décennie 60 où tout semble s'accélérer dans son pays? Surtout qu'il n'est pas vraiment un proche du général de Gaulle. Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal URFI, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Vraiment, on vivait dans une situation de pas de citoyen de troisième catégorie, quatrième catégorie, sans le vivre dans notre chair, n'est-ce pas? Je reviens de casino, décidé à casser la baraque, voilà tout simplement.
Ils ont décidé de casser la baraque, de se libérer de cette colonisation qui faisait d'eux des citoyens de quatrième zone. Un choix qui va rapidement faire de lui un adversaire, un ennemi à abattre. Ce qui va l'amener dès 1956 en prison, après le détournement de l'avion dans lequel il était avec quelques camarades nationalistes comme lui. Mais 6 ans et des milliers de morts après, la métropole, qui n'est pas parvenue à calmer la colère des populations de ce grand ensemble algérien, accorde, alors qu'il est toujours prisonnier, l'autodétermination à son pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella.
Dans 23 jours, pour la France, le problème algérien sera résolu au fond. L'Algérie disposera d'elle-même. L'Algérie et la France pourront coopérer organiquement et régulièrement. Les Algériens de souche européenne auront les garanties nécessaires pour prendre part en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité à la vie de l'Algérie nouvelle.
Que seuls les gens qui avaient des couteaux à la main, qui ne laissaient pas au vestiaire, seuls ces gens-là avaient droit à la parole. C'était seulement avec ces gens-là qu'on allait traiter. Mais je suis un ultra. Je suis un ultra, ça veut dire que je veux vivre ici, dans mon pays français, en Algérie, que je m'appelle moi Mohamed, que je m'appelle Jacob, que je m'appelle André, que je m'appelle n'importe comment. L'Algérie, pour le moment, c'est le pays de la peur, monsieur. C'est pas marrant, vous savez, de prendre une balle dans le dos, mon coup de boussadi à travers la gorge. Ça n'a rien de rigolo.
Eh bien, jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été d'accord avec les musulmans. Je suis sorti avec des musulmans. Et maintenant, ils se méfient de moi et moi, je me méfie d'eux. Alors, c'est pas une vie de vivre comme ça. Il faut en finir une fois pour tout.
L'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher, ce fossé. C'est fini, c'est trop tard.
Je suis sûr que si demain, il y aurait l'Algérie indépendante, nous, Européens, on serait les premiers à se faire massacrer.
Alors que la guerre se poursuit en Algérie, le général de Gaulle a accepté d'engager des négociations avec les représentants de la France et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. De Gaulle souhaite que les rebelles algériens déposent des armes avant toute négociation. Les premiers contacts à Melun en juin 1960 tournent court. Mais le général président ne veut pas négocier, comme il le dit à propos du responsable nationaliste Ahmed Ben Bella, ancien sous-officier de l'armée française, avec un caporal-chef. Un lien va néanmoins être établi. Un lien secret par l'entremise de négociateurs. Mais les pourparlers butent sur plusieurs éléments. D'abord, le problème du Sahara que De Gaulle persiste à vouloir garder. C'est l'un des principaux points de divergence qui va rallonger la guerre d'une année. Le général veut une Algérie coupée de son Sahara qu'il considère comme un territoire français. Il y mène des essais nucléaires. Le général De Gaulle souhaite avoir un Gibraltar français. Les bases militaires comme Mersel Kébir, il y tient beaucoup. Les Algériens, intransigeants sur l'intégrité territoriale, vont faire preuve de souplesse sur les bases comme à Regan, dans le Sahara, où les Français mènent à cette période leur première campagne d'essais nucléaires. Le général veut également conserver une part du pétrole indispensable à son industrie qui se construit difficilement après la guerre. L'énergie, il en a vraiment besoin. Et l'Algérie lui fournit l'essentiel de cette manne. Autre point sur lequel butent les négociations, le statut du million d'Européens vivant en Algérie. Les négociations concernant le règlement du conflit franco-algérien vont aboutir le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains à la signature des accords dits d'Évian. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, Krim Belkacem, et le ministre français des Affaires algériennes, Louis Jox, assisté de Robert Buron et de Jean de Breuil, reconnaissent la souveraineté de l'État algérien. Les accords d'Évian mettent fin à 8 ans de guerre. Il y a plus d'un siècle de présence française en Algérie. Le cessez-le-feu est programmé pour le lendemain à midi. La France s'engage à évacuer progressivement ses troupes et à maintenir son aide économique pendant 3 ans. Elle obtient des assurances sur le pétrole et bénéficie d'un droit de préférence.
La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens et notamment avec ceux de la rébellion la libre autodétermination elle demeure disposée à maintenir son aide à l'Algérie dès lors que serait assurée la coopération organique des communautés et que seraient garantis ses propres intérêts. Faute de cette association, il lui faudrait, en dernier ressort, regrouper pour les protéger dans telle ou telle zone ceux des habitants qui se refuseraient à faire partie d'un État voué au chaos, leur procurer les moyens de s'installer dans la métropole si tel était leur désir, ne plus se mêler en rien du destin de tous les autres et leur fermer l'accès de son territoire. Après quoi, elle verrait venir. En tout cas, elle est décidée à cesser d'engouffrer à fond perdu en Algérie, non plus qu'ailleurs, ses efforts, ses hommes et son argent.
Ces accords mettent fin officiellement à 7 années et 5 mois de guerre, pour laquelle la France a déployé environ 400 000 hommes et durant laquelle de 250 000 à 400 000 Algériens pro-indépendantistes ont été tués. Plus 1,5 million selon l'État algérien. Pour la France, on compte 28 500 morts du côté des militaires, 30 000 à 90 000 harkis, 4 000 à 6 000 chez les civils européens et environ 65 000 blessés. Malgré la signature des accords, la guerre va continuer à faire rage. Sur le terrain, les accords de Vienne, loin d'apporter aux populations la paix attendue, inaugurent une période de violence redoublée et de massacres des harkis.
Le plus urgent est celui des réfugiés. Le hall de l'aéroport de Maison-Blanche est jour et nuit l'asile de centaines de familles en partance pour lesquelles un pont aérien a été établi. Chaque jour maintenant, une dizaine d'avions de ligne font la rotation Alger-Marseille, déversant à Marignane leur cargaison de voyageurs. La peur du lendemain, l'angoisse du présent donne à cet exode ses raisons et ses résonances. Sont-ils, ces émigrants, une minorité bientôt absorbée? Sont-ils l'avant-garde d'un retour plus massif?
Madame, s'il vous plaît, puis-je vous demander de quel point précis vous arrivez?
D'Alger?
Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre l'appareil?
Oh, plutôt, oui.
Est-ce que vous pensez rester définitivement en France?
Monsieur, le problème est tellement difficile.
Oui, vous ne savez pas encore.
Si vraiment il y avait l'indépendance, c'est impossible de retourner.
C'est ça.
C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent.
Est-ce que vous comptez rester définitivement en France?
Non, je ne le pense pas, monsieur. Je reviendrai sans doute.
Je vous remercie, madame.
Dans un avenir prochain.
Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas encore?
Je ne sais pas encore. Suivant les événements.
Vous avez des parents en France?
J'ai toute ma famille.
Par conséquent, vous allez décider
non,
maintenant?
Non, en Algérie.
Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle vient vous rejoindre?
Pour les partisans de l'Algérie française, ce référendum annonce l'abandon de ce territoire. En février 1961, un groupe exilé à Madrid, à la fin de l'année 1960, se forme autour du général Salan, de Pierre Lagaillarde et de Jean-Jacques Sousigny, et crée l'OAS. Le 22 avril 1961, se déroule le putsch des généraux à Alger, suivi par environ 200 officiers. Dans la nuit, du 21 au 22 avril, en 3 heures, les parachutistes du 1er MRP, menés par le commandant de Saint-Marc, s'emparent des principaux points stratégiques d'Alger. La délégation générale, le quartier Rignot, siège du commandement, l'hôtel de ville, la radio et l'aéroport.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler.
Depuis 5h35, très exactement, toutes les communications téléphoniques et télégraphiques avec la métropole. L'armée s'est rendue maître du pouvoir en Algérie.
À Paris, les principaux activistes qui défendent l'Algérie française, dont le général Jacques Faure, sont arrêtés pour éviter la propagation de l'insurrection à métropole. L'état d'urgence est proclamé.
Des avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes en divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir.
Le 23 avril, Alors que le général Salan arrive d'Espagne pour rejoindre les autres généraux, les pleins pouvoirs sont conférés au général de Gaulle. Celui-ci prononce un discours qui condamne ce quarteron des généraux en retraite et appelle la population civile ainsi que l'armée à refuser le coup d'État et à ne pas obéir aux ordres des généraux rebelles.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un quarteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres.
Rapidement, l'insurrection s'essouffle. Les généraux sont peu suivis par l'armée. Et le 26 avril, les troupes se rendent. Maurice Schall, le principal organisateur du putsch, est immédiatement transféré en métropole. Cet échec fait perdre tout espoir aux partisans de l'Algérie française. L'article 16, qui accorde les pleins pouvoirs au général de Gaulle, restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1961, pour éviter tout risque de nouveau soulèvement. À la suite de cet échec, une bonne partie des insurgés déserte et rejoint la lutte clandestine dans les rangs de l'OAS, ainsi que de nombreux civils. La cassure est totale avec De Gaulle. Et il s'ensuit une véritable guerre entre les membres de l'OAS et l'État.
Après l'attentat commis contre la personne du général De Gaulle, et dont la nouvelle avait stupéfié la France et le monde entier, M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, commentait l'événement devant la presse et en donnait un premier récit détaillé. Il se confirmait que c'était sur la route de Colombey, entre Nogent et Romilly, qu'avait été placée une énorme charge d'explosifs. Un tas de sable avait servi à dissimuler une machine infernale dont une déficience technique a fort heureusement empêché le plein fonctionnement et dont on retrouvait encore des éléments le lendemain. La déflagration avait été perçue aux alentours. Le dimanche, à Colombey, le général de Gaulle n'avait voulu changer en rien ses habitudes. Et l'homme qui avait dit après l'attentat « c'est une plaisanterie de mauvais goût » se rendait comme à l'accoutumée à l'église du village, au milieu de l'émotion qu'on imagine. On imagine aussi l'écho qu'a rencontré le geste criminel en France, car la France se souvenait. Elle se souvenait des tristes heures de l'exode. Elle se souvenait de la voix qui s'était élevée pour ranimer l'espoir. Et sans doute ce sont ces souvenirs qui appartiennent à l'histoire, et qui appartiennent aussi à la légende, qui donne un poids plus lourd encore à la réprobation que suscite l'attentat d'aujourd'hui. Car la France sait ce que représente l'homme qui avait relevé les armes de la nation et qui devait tenir ensuite une place si importante dans son destin.
Les attentats de l'OAS vont viser des personnalités politiques et administratives du gouvernement légal français, des intellectuels ou des organes de presse favorables à une négociation avec le FLN, le Front de Libération Nationale. Elles frappent en Algérie comme en métropole, ainsi que la population musulmane soupçonnée de soutenir le FLN. Ces commandos prennent également pour cible les policiers, les enseignants, les fonctionnaires de l'administration fiscale, les commerçants musulmans.
La fièvre d'Alger n'est pas apparente. Mais dans le port, une partie de l'escadre méditerranéenne avec le porte-avions Lafayette reste amarrée, tandis que de rigoureuses mesures de sécurité sont maintenues et que 28 000 hommes des forces de l'ordre mènent une surveillance pour empêcher la recrudescence des attentats activistes. Paris n'a pas été épargné. Une flambée d'attentats au plastique a fait des dégâts et des victimes. Au Palais Royal, où les fenêtres du ministère des Affaires culturelles qu'occupe M. André Malraux ont volé en éclats, et rue Simon Dereur, à la porte d'un conseiller municipal et où les criminels ont signé leur acte. En plein jour, deux autres explosions se sont produites dans le quartier de l'Opéra. L'une rue des Pyramides, dans les bureaux d'un journal et qui a blessé deux passantes. Une autre où l'on a relevé cinq blessés avenue de l'Opéra. Des esprits faussés n'hésitent plus devant le crime.
Les membres de l'OAS sont eux-mêmes pourchassés sans répit par les forces gaullistes. l'OAS est largement soutenue par la population française d'Algérie.
Là, dans le hall, nous avons été littéralement éjectés dans le hall de la préfecture. Là, il est accueilli par des jeunes. Tout le monde embrasse Ben Bella. Le colonel Hassan fait le vide autour de lui. Littéralement porté dans les escaliers de la préfecture, il va monter très certainement pour faire une apparition au balcon.
L'ambiance de ces accords d'Évian, la détente qu'ils supposent, même si dans la réalité ce n'est pas cela, vont également marquer le retour sur la scène d'Ahmed Ben Bella qui retrouve la liberté après 7 années de prison. Aussitôt libéré, Ben Bella ne va pas retourner au pays. Il prend la direction de la Suisse, puis le Maroc où a lieu la réunion du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne dont il est le vice-président. Avant de s'installer à Tunis, le siège exécutif du FLN, il va réaliser une tournée des dirigeants arabes du Caire et de Bagdad. Mais, à Tunis, il n'est pas le leader incontesté. Pendant qu'il était en prison, d'autres ont combattu, ont négocié, ont maintenu en vie le parti et n'entendent pas ainsi se faire évincer par Ahmed Ben Bella, qui très vite dans la capitale tunisienne, fait figure de candidat à la présidence. Ce n'est plus la sérénité et l'union au sein du mouvement. C'est même, carrément, la rupture. Une rupture qui va de nouveau éloigner Ben Bella de ses camarades nationalistes. Il prend le chemin du Caire à nouveau. Mais comment va-t-il retrouver sa place au sein de ce mouvement au moment où l'on s'apprête d'ailleurs à organiser la présidentielle en Algérie? Ben Bella a de la ressource. Il est loin d'avoir dit son dernier mot, comme on va le voir dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique, la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
أصلوا مثل الزنم ويعدل فيها.